Le journal, Hélène Roussel, bonjour Hélène.
Bonjour. Noir sur blanc, des lettres contre les féminicides, des affiches collées un peu partout. À Paris, 6 militantes verbalisées, sentiment d'injustice et de colère, la mairie s'explique. On y revient dès le début du journal. La rentrée, les politiques en mode bataille. Édouard Philippe cet après-midi à l'université d'été de la REM à Bordeaux, la carte de l'apaisement après les histoires de dissidents. Et Marine Le Pen en terre connue, Hénin Beaumont ce matin, cap sur les municipales. Dans l'actualité encore, jour d'élection en Russie, on verra que l'opposition a plusieurs stratégies. Le chaos au Royaume-Uni, nouvelle démission chez les Tories et Bojo en sursis. La grand-messe du pape à Madagascar, très politique. Notre droit de suite sur l'Inde aujourd'hui, un an après la dépénalisation de l'homosexualité. Notre invitée Ingrid Terwatt, membre de l'association des journalistes LGTB, sera en direct avec nous. Le tennis aussi ce soir, Nadal, Medvedev en finale de l'US Open. Et puis la traversée de Paris, tout nu et tout vélo cet après-midi dans la capitale et à la fin du journal.
France Inter.
Elles écrivent sur les murs pour celles qui ne peuvent plus parler. Des affiches pour dénoncer les féminicides collées un peu partout. Et voilà, à Paris, au moins 6 militantes féministes verbalisées. 400 euros d'amende. Delphine Evenou, bonjour.
Bonjour.
Des amendes, car c'est considéré comme de l'affichage sauvage et ça, c'est interdit.
Et les militantes qui sont entre 20 et 30 par session à Paris en sont bien conscientes. Mais il faut agir, être efficace, aller vite sur cette question des féminicides, explique-t-elle. Vendredi soir, elles ont voulu faire une action plus symbolique en passant des murs d'immeubles à ceux de l'Assemblée nationale et de Matignon. Marguerite Stern, à l'origine de l'initiative, est furieuse.
On est en colère parce qu'on n'a pas l'impression d'être des délinquantes. On a voulu s'adresser à l'État, aux institutions, en allant coller sur les murs qu'ils occupent, parce que c'est à eux que revient la responsabilité de s'occuper de ces femmes-là. Oui, c'est illégal d'aller coller des affiches dans la rue, mais c'est illégal aussi de refuser de prendre une plainte d'une femme. Sinon, on va coller des papiers sur des murs. C'est pas un truc de fou non plus.
Mais c'est puni par la loi et la lutte contre l'affichage sauvage est une priorité donnée aux agents de la police municipale. Ce sont ces agents et non pas la police nationale qui ont procédé aux verbalisations vendredi soir. À la mairie, situation délicate et grosse gêne. Paul Simondon, adjoint en charge de la propreté.
Je suis un peu désolé de cet épisode pour les militantes en question. C'était des militantes sur la question des féminicides. La ville de Paris soutient totalement leur mobilisation. Les Parisiens nous demandent d'être toujours plus efficaces pour lutter contre les incivilités. Et on ne peut pas demander aux agents, slogan par slogan, de faire le tri d'une activité qui est interdite.
La ville met en avant ses actions contre les violences faites aux femmes. Les militantes, elles, ont bien l'intention de continuer leur campagne d'affichage, légale ou non.
Delphine Evenou, merci à vous. 1500 morts de plus que la moyenne en juin-juillet, c'est lié à la canicule, explique la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, sur France Inter ce matin. La moitié des victimes avaient plus de 75 ans. Sauver l'hôpital et surtout mettre fin à la grève la plus longue qu'ait jamais connue le secteur, le défi pour la ministre qui passe à la vitesse supérieure, suite de son plan d'urgence officiellement détaillé demain, avec, croit savoir, le journal du dimanche, une mesure la plus emblématique sans doute, revendication principale des grévistes, l'ouverture de lits. Agnès Buzyn serait prête à faire sauter le dogme des fermetures à tout va. Pour ça, il faut des millions d'euros et le feu vert de Bercy. La ministre doit encore en discuter aujourd'hui avec Gérald Darmanin et le Premier ministre, peut-être en marge de l'université d'été de la République en marche à Bordeaux tout à l'heure. Le Premier ministre qui est attendu donc cet après-midi devant les militants, discours censé apaiser une majorité plus que crispée par les municipales et la question des dissidences. Il n'y a pas que le parti d'Emmanuel Macron qui est en marche. Marine Le Pen, le grand retour, une rentrée sur ses terres, Hénin Beaumont et un petit tour à la braderie ce matin. La présidente du Rassemblement National siffle le début de la bataille. Simon Le Baron, vous êtes sur place pour France Inter. Un objectif, les municipales, et une cible, Emmanuel Macron.
Oui, après un été très discret, la présidente du RN relance le duel en s'attaquant au dossier le plus sensible de la rentrée gouvernementale.
Le projet de réforme des retraites qui est porté par Emmanuel Macron est un projet qui va avoir des conséquences lourdes sur le niveau des retraites de nos compatriotes, sur la montée en puissance des injustices, des inégalités. Et moins qu'on puisse dire, c'est qu'en matière d'inégalité, M. Macron s'y connaît.
Comme lors de la campagne des européennes, Marine Le Pen compte bien camper le rôle de première opposante à Emmanuel Macron pour obtenir cette fois des succès municipaux. Mais pour cela, elle a besoin de bras. Le Rassemblement national, traditionnellement, a du mal à constituer ses listes. Elle appelle donc ses sympathisants à s'engager.
Pour ceux qui en sont éloignés, la politique municipale, c'est celle qui est la plus près. C'est vraiment la politique de proximité. Et donc, il faut qu'ils s'investissent dans leur ville pour pouvoir contribuer à changer les choses.
Objectif minimum, conserver les 11 communes tenues aujourd'hui par l'ex-Front National et lancer surtout la dynamique pour les élections suivantes.
Il est évident qu'il y a une séquence de 3 élections qui sont totalement liées entre elles. D'ailleurs, ces municipales, nous les envisageons également à l'aune des futures départementales et des futures régionales, bien sûr.
Car l'objectif du RN et de Marine Le Pen, le vrai, c'est évidemment 2022 et l'Élysée.
Simon Le Baron avec Gilles Gallinaro à la technique en direct d'Hénin-Beaumont. Merci à tous les deux. Marine Le Pen qui sera en meeting la semaine prochaine à Fréjus dans le Var.
Le journal de 13h. Sur France Inter.
Une campagne rythmée par les manifestations et la répression de l'opposition pour arriver au jour J en Russie. Le vote de 16 gouverneurs régionaux et de 13 parlementaires locaux. Pas encore de chiffre officiel sur la participation, c'est trop tôt. Mais Claude Brouillot, vous êtes notre correspondant à Moscou. Une certitude, Vladimir Poutine, lui, a voté ce matin.
Absolument, le président russe a voté dans un bureau installé dans les locaux de l'Académie des sciences de Russie à Moscou, l'un des 3600 bureaux de vote de la capitale. Au sortir de l'enceinte, Vladimir Poutine a déclaré qu'il ne connaissait pas personnellement le candidat pour lequel il a voté, ajoutant simplement qu'il espérait que l'intéressé était un homme bon et honnête, en précisant que ce n'était pas le nombre de candidats qui comptait, mais leur qualité. Pas de référence directe, en revanche, au parti majoritaire qui soutient le président, l'occurrence Russie Unie, en perte de vitesse depuis 2018 et la très critiquée réforme des retraites. Nombre de ses candidats pro-Kremlin ont d'ailleurs choisi d'éviter de s'afficher sous l'étiquette de cette formation, prise en étau par la double stratégie aujourd'hui des opposants au pouvoir. Il y a d'un côté ceux qui appellent au boycott carrément du scrutin, et de l'autre ceux qui, comme Alexeï Navalny, l'opposant numéro 1, Vladimir Poutine, prônent le vote dit intelligent, en clair, soutenir les candidats dont les positions sont les plus éloignées possibles de celles du Kremlin.
Claude Brouillot en direct de Moscou pour France Inter. On suivra évidemment les résultats avec vous d'ici ce soir. Le feuilleton du Brexit, quant à lui, continue. La date du 31 octobre, à nouveau remise en cause par les parlementaires et les Britanniques qui exaspèrent. Jusqu'en France, une voix ce matin, celle du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.
Ils disent qu'ils veulent proposer des arrangements alternatifs pour assurer le retrait et assurer le no deal. Nous ne les avons pas vus, donc c'est non. On va pas recommencer tous les 3 mois.
Ras-le-bol donc de ce chaos politique qui visiblement n'est pas prêt de s'arranger. Moins d'une semaine après la rentrée parlementaire à Londres, et alors que le Parlement doit être suspendu jeudi prochain ou plus tard, c'est reste très confus. La Chambre des Lords a adopté une loi cette semaine pour demander un nouveau report. Une loi qui entre en vigueur demain après le feu vert de la reine. Boris Johnson serait alors hors la loi s'il n'applique pas ce report. Ou alors peut-être pourrait-il démissionner pour mieux revenir. En attendant, voilà le parti des Tories, dynamité, encore un départ, un de plus. La ministre du Travail, Amber Rudd, cette nuit a démissionné. Le gouvernement de Bojo, Marina Daras, s'enfonce.
Amber Rudd claque la porte du gouvernement qu'elle accuse de vandalisme politique et d'atteinte à la décence et à la démocratie pour avoir destitué les 21 députés conservateurs qui ont voté contre le gouvernement mercredi soir. L'ancienne ministre explique également que 90% des efforts du gouvernement sont désormais orienté vers une sortie sans accord et que malgré les promesses de Boris Johnson, très peu de temps est finalement consacré aux négociations avec l'UE. Le but pour Boris Johnson est désormais d'obtenir des élections le plus vite possible afin de remplacer la trentaine de conservateurs démissionnaires et ceux destitués la semaine dernière par des Brexiteers convaincus et ainsi retrouver une majorité parlementaire qui soutiendra ces projets de loi. Mais les partis de l'opposition britannique se sont alliés pour empêcher Boris Johnson d'organiser des élections générales avant le sommet de l'UE prévu à la mi-octobre. S'il n'obtient pas de scrutin, Boris Johnson envisage de court-circuiter la nouvelle loi votée la semaine dernière qui l'oblige à demander à l'UE une nouvelle extension pour malgré tout faire sortir le Royaume-Uni de l'Union Européenne le 31 octobre. À Londres, Marina Daras pour France Inter.
Dorian, l'ouragan rétrogradé en cyclone post-tropical, des pluies diluviennes sur le Canada en ce moment avec des milliers de foyers privés de courant, mais c'est aux Bahamas que la situation reste la plus critique. Paysage de désolation, 43 morts et des centaines d'habitants sont toujours portés disparus. Une cinquantaine de militaires français embarquent aujourd'hui à Saint-Martin pour apporter de l'aide. Il y a un an, l'Inde, la plus grande démocratie du monde, dépénalisait l'homosexualité. C'est notre droit de suite ce dimanche midi. Et avant d'en débattre avec notre invité, je vous propose ce reportage de notre correspondant. Un an après, en Inde, certes, on ne va plus en prison si on est homosexuel, mais les familles ont-elles parfois du mal à accepter? Et pour faciliter le dialogue, un militant lance une série de portraits de parents, de frères, de sœurs qui, eux, ont accepté l'orientation sexuelle de leurs proches. Reportage en Inde, donc signé Sébastien Farcy.
Ses cheveux sont gris, son regard fuyant. Vina a plus de 70 ans et elle avoue qu'elle a eu du mal à accepter l'homosexualité de son fils, Abhijit.
Quand j'ai dû l'annoncer à notre famille et à nos amis, cela nous a rendus très tristes. On se demandait ce qu'il allait devenir. Mais ensuite, je me suis rendu compte qu'il était heureux comme ça. Et c'est ainsi que j'ai décidé d'accepter son choix.
Une autre famille présentée dans ces documentaires a adopté une personne transgenre qui vit maintenant avec eux. Suhani, une jeune adolescente de la famille, a trouvé sa manière pour décrire sa sœur adoptive.
Il arrive parfois que Dieu enferme l'âme d'une femme dans un corps d'homme, ou l'âme d'un homme dans le corps d'une femme.
Monish Malhotra, un militant LGBT, a ainsi filmé 5 portraits de familles particulières, comme il les appelle. Ces histoires vont maintenant être diffusées sur Internet pour qu'elles touchent les Indiens de toutes les couches sociales.
Cette loi était un monstre qui a harcelé la communauté LGBT depuis des années. Les familles essaient donc aujourd'hui de s'adapter à la légalisation de ces relations. C'est très touchant. Ces portraits peuvent maintenant servir d'inspiration pour les autres familles et pour les différentes générations.
Le 20 mai dernier, le Times of India, le plus grand quotidien anglophone du pays, a créé une section LGBT dans ses annonces matrimoniales, un pas de plus vers l'inclusion de cette communauté dans le cadre familial indien. À New Delhi, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
La dépénalisation de l'homosexualité en Inde, un an après, avec nous pour en parler ce midi, Ingrid Terwatt, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans le 13h de France Inter. Vous êtes journaliste spécialiste de l'Inde et membre de l'AJL, l'association des journalistes LGBT. Alors on vient d'entendre notre reporter, Sébastien Farcy, évoquer ces annonces LGBT dans les agences matrimoniales indiennes. Est-ce que c'est symbolique? Est-ce que ça veut dire surtout que le pays a beaucoup avancé?
Il a un peu avancé. Sébastien Farcy parlait de pas de plus vers l'inclusion, c'est vrai. Ce qui est frappant depuis un an, c'est qu'on va vers plus de visibilité. Des marches des fiertés sont organisées dans beaucoup de villes indiennes, y compris les petites villes, les villes de province. Depuis plusieurs années, il y en a de plus en plus. L'homosexualité, maintenant, on en parle à la télévision, on en parle dans les films. Il y a des annonces matrimoniales LGBT. Donc, on n'est jamais allé aussi loin que maintenant vers la visibilité et peut-être un petit peu d'inclusion. Donc ça, c'est vrai que c'est très très positif et c'est un effet de l'abrogation de cet article de loi 377.
Ah oui, qui menaçait de prison tous les couples homosexuels.
Oui, les médias mainstream ont aussi donné un écho très positif à ce changement, cette décriminalisation, ce qui n'avait pas été le cas pour les questions LGBT dans les années précédentes. Donc ça, c'est très positif. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Par exemple, un couple gay ou lesbien ne peut pas ouvrir un compte commun à la banque, ne peut pas avoir une assurance familiale, ne peut pas se marier, on ne peut pas hériter de son conjoint, est exclu de la filiation, l'adoption et de la GPA. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de travail pour l'obtention de l'égalité des droits. Pas de droit particulier, juste de l'égalité. Et la discrimination sociale est encore très forte.
Ingrid Terwatt, malgré tout, effectivement, c'est une avancée en termes de dépénalisation de l'homosexualité. Est-ce que l'Inde, qui n'en est qu'au début, peut entraîner dans son sillage d'autres pays? Je pense notamment à ceux d'Afrique, où je crois qu'il n'y a pour l'instant que le Botswana qui a dépénalisé l'homosexualité, si je ne me trompe pas.
Oui, alors c'est vraiment la question cruciale que pose la décision de la Cour suprême en Inde. Sur les 71 pays qui criminalisent l'homosexualité dans le monde, plus de la moitié sont d'anciennes colonies britanniques ou d'anciens protectorats britanniques. C'est pas du tout un hasard, parce qu'en fait, l'Empire britannique a légué en héritage, non pas l'homosexualité, mais l'homophobie, à travers un appareil légal, législatif, particulièrement homophobe, qui fait l'homosexualité un crime. Et effectivement, la décision de la Cour suprême indienne peut servir de jurisprudence dans de nombreux pays africains. C'est vers ça qu'on s'achemine, et c'est une très bonne chose en termes de droits humains. Alors le Botswana a effectivement décriminalisé en juin dernier, le Kenya ne l'a pas fait en mai, on avait beaucoup d'espoir.
Finalement,
les juristes kényans... Oui, les juristes kényans s'appuyaient pourtant sur, entre autres, la jurisprudence indienne. Ça n'a pas marché en 2019, mais je pense que la conversation n'est pas finie, que la lutte n'est pas finie et que le cas indien sera un précédent.
Vous êtes optimiste
pour l'obtention de plus de droits.
Vous êtes optimiste, Ingrid. C'est le même. Oui, c'est ça. Vous êtes optimiste parce que vous avez vu ce que ça pouvait donner la décolonisation en Inde, c'est ça, et les retombées que ça a pu avoir après en Afrique.
Mais tout à fait. L'Inde a été le fer de lance des décolonisations de l'Empire britannique. En 1947, l'Inde a obtenu son indépendance et avec à sa tête le Parti du Congrès, qui était le parti indépendantiste de l'époque. Et d'ailleurs, c'est pas du tout un hasard si en Afrique de l'Est, notamment en Afrique du Sud aussi, les partis indépendantistes s'appelaient Parti du Congrès, Parti du Congrès sud-africain par exemple. L'Inde a souvent ouvert la voie.
Donc on peut rester optimiste pour le reste. On peut rester optimiste donc pour les autres pays d'Afrique qui n'ont toujours pas dépénalisé l'homosexualité. Ingrid Terwatt, je suis obligée d'arrêter là, la montre repasse. Merci beaucoup, journaliste spécialiste de l'Inde, membre de l'association des gens LGBT. Merci d'avoir été en direct avec nous ce midi pour les 1 an de la dépénalisation de l'homosexualité en Inde. Au revoir, bonne journée à vous. Le pape en rockstar, sa grand-messe à Madagascar a fait le plein. Ils étaient plusieurs centaines de milliers ce matin. Certains ont même dormi sur place dans le froid et à même le sol pour ne pas rater le pape François et son message. Un message très politique. Notre envoyé spécial Bruce de Gales, un reportage.
Le terrain était prévu pour accueillir 800 000 fidèles. Ce sont près 1 million de malgaches qui ont assisté à la messe du pape. Jamais autant de personnes s'étaient réunies à Madagascar. Et François a délivré un message encore une fois politique. Le pape a mis en garde contre les clans, contre la corruption. On finit par justifier et jusqu'à consacrer certaines pratiques qui aboutissent à la culture du privilège et de l'exclusion, favoritisme, clientélisme et par conséquent corruption.
Et quindi corruzione.
Un message adressé aux dirigeants politiques, surtout un message que juge très juste, fêtera 31 ans.
Il y a pas mal de corruption partout, surtout dans le bureau de l'État. Pape François est aussi le président du Vatican, donc que ce soit une relation diplomatique sérieuse entre Madagascar et le Vatican.
Le président malgache a assisté à la messe, un président auquel croit lui beaucoup, Louveux, 24 ans, l'un des 10 000 scouts présents.
La jeunesse attend une stabilité politique. Je crois que le dirigeant en ce moment est très très actif pour les jeunes. C'est une chance pour Madagascar.
Madagascar dont 9 habitants sur 10 vivent avec moins de 2 dollars par jour. Dans la banlieue de Tananarive, Bruce de Galzin, France Inter.
L'autoroute A7 coupée dans les deux sens depuis ce matin au niveau de L'Oriole dans la Drôme. 2 accidents, un poids lourd, un minibus, plusieurs voitures impliquées, 1 mort et 3 blessés. L'autoroute doit rouvrir dans les minutes qui viennent. En revanche, l'A57, elle a été coupée à 12h30 dans les deux sens. Il y a un feu entre Carnoul et le Canet des Morts dans le Var. Un feu de végétation, les Canadairs devraient intervenir dans les prochaines minutes. Après l'exploit de la jeune, très jeune canadienne Bianca Andreescu face à Serena Williams hier à l'US Open, place à la finale homme ce soir. Rafael Nadal, Daniil Medvedev pour l'Espagnol. Ce serait un 19e titre en grand chelem, devenir l'égal de Federer. Pour le Russe, en revanche, ce serait une grande première. Mais il est la révélation de l'année, Fabrice Abgral.
Il est surprenant, déroutant et désarmant. Daniil Medvedev ne ressemble à aucun autre joueur sur et en dehors du court. Ce grand escrocgriffe d'1m98 né à Moscou il y a 23 ans est inclassable et insaisissable, à tel point que son entraîneur Gilles Sarvara n'hésite pas à parler de génie.
Il y a des moments, Daniil, je me dis mais c'est qui ce type quoi ? Il est incroyable, il fonctionne comme ça alors qu'on s'attend à ce que quelqu'un fonctionne plutôt comme ça. Donc je me suis fait à l'idée qu'il était différent. Les gens exceptionnels sur cette planète sont en quelque sorte des génies.
Sur un court, c'est un génie, mais en dehors, Daniil Medvedev est un garçon adorable et attachant qui, à en croire son épouse Dasha, s'accorde des plaisirs simples et même très simples.
C'est un peu enfant. Il aime manger des bonbons, faire des bêtises, jouer dans les jeux vidéo et tout ça. Donc, à vrai dire, il a 23 ans, donc c'est pas très sérieux.
Daniil Medvedev est un personnage singulier, marqué par 2 cultures, la russe et la française. C'est ce qu'a remarqué Jean-René Lisnard, le responsable du club où Medvedev s'entraîne.
Il a gardé les bons côtés des Russes, il a ce côté un peu falabrac, un peu génie. Ils sont très talentueux les Russes. Tout ce que la France a pu lui apporter, il est là, quoi, structuré, un peu plus réfléchi. Il a pris les bons côtés des deux pays, je dirais.
New York, Fabrice Abgral, France Inter.
Et Nadal Medvedev en finale de l'US Open, c'est ce soir à 22h. Enfin, l'image a de quoi faire sourire. Des cyclistes tout nus vont traverser Paris cet après-midi, la World Naked Bike Ride. Après Londres ou Madrid, voilà qu'elle débarque donc dans la capitale française. Une boucle de 15 km, une centaine de participants. Et non, nous dit l'organisateur Julien-Claude Pénégri, ce n'est pas de l'exhibitionnisme.
Le rapport avec les personnes est assez simple. D'une part, c'est quelque chose de très ludique. Nous ne sommes pas là pour nous exhiber, mais simplement montrer le corps tel qu'il est. Il n'y a pas de brutalité, c'est quelque chose de pacifiste. Nous pouvons prendre des personnes avec nous si elles sont désireuses de suivre le mouvement. Nous prendrons le temps d'expliquer le pourquoi de cette manifestation. Un corps nu est un corps nu qui n'est pas là pour déranger parce que c'est notre premier véhicule, c'est notre premier vêtement. S'il n'y avait plus aujourd'hui de personnes nues ou de personnes qui acceptent la nudité et leur nudité, il y aurait plus de respect les uns les autres parce que la nudité est le gage de quelque chose de simple et on n'a pas besoin de le cacher parce que nous sommes tous fait sur le même moule.
Voilà le message de Julien-Claude Pénégri de l'Association des naturistes parisiens Jean-Parti Beau-Lefèvre qui va donc enfourcher son vélo tout nu tout à l'heure, d'ici une petite heure, si le cœur vous en dit, c'est à Paris.